Richard Thérien. Bonjour, Richard.
Bonjour, Paul. Bonjour, Thérèse. Bonjour,
comment ça va, Richard?
Ça va très, très bien.
Alors, tu nous arrives avec ton bilan de mi-session sur tout ce qu'on a vu à la télévision, tout ce qu'on risque de voir encore pour la saison printanière. Mais avoue-le, nous avons eu un séisme télévisuel cette semaine avec la démission de Danny Turcotte à Tout le monde en parle.
Oui, oui, qui, moi, m'a surpris et non en même temps. Ce qui m'a surpris, c'est que ça a été tellement subi, là. Ça a été comme on l'a appris puis ça s'est passé là. Mais en même temps, on voyait bien, là, depuis un certain temps que Danny se cherchait beaucoup. À Tout le monde en parle, surtout depuis que c'est en direct. Hein? Mais écoute, moi, j'ai jamais vu autant de hargne, d'homophobie sur les réseaux sociaux pour une seule personne. Et d'ailleurs, vous irez voir la caricature d'André-Philippe Côté là, sur lesoleil.com. Ça résume pas mal ça. On rit jaune, là. C'est pas très drôle. C'est Danny et Guilla qui ont des parapluies et qui reçoivent sur la tête des emojis de caca, de tête de mort, de finger. Ouais. C'est ça.
C'est effrayant. Puis là, t'as Danny qui dit écoute, Guy, je suis juste plus capable. Et là, t'as Guy qui tient son parapluie, qui a la tête penchée, puis qui fait bonne chance, Danny.
Oui, voilà. Puis c'est ça que je trouve dommage, moi, pour Danny, c'est que ça donne l'impression, son départ subi comme ça, que les réseaux sociaux ont gagné, qu'ils ont eu le dernier mot. Et je trouve que c'est un exemple de l'époque dans laquelle on vit, là, qui est très fort, qui est très parlant. C'est pas la première fois que ça arrive, mais qu'une personnalité en vue comme ça, oui, c'est la première fois. Et j'espère que ça ne va pas se répéter là, pour d'autres.
Richard, l'émission, depuis le début de la pandémie, est en direct.
Oui.
Avant, c'était enregistré le jeudi soir, il y avait montage. Il n'y a plus le public en studio. Et je rappelais à André Ducharme, avec qui nous avons eu une très bonne conversation hier, que, évidemment, quand on achète un concept, c'est-à-dire, tout le monde en parle, c'est un concept de Thierry Ardisson, il faut respecter non seulement le contenant, mais la façon de faire de l'émission. Et peut-être que ça explique la difficulté, dans un contexte de direct, d'adapter le rôle du fou du roi avec des sujets quand même qui sont pas jojo de semaine en semaine.
En tout cas, qui se prêtent moins à la blague.
Oui, c'est ça. Puis moi, depuis jeudi, les gens me demandent beaucoup « qui est-ce que tu verrais dans ce siège-là de fou du roi ?» Moi, je pense là, que tant que ça va être en direct, tant qu'on va être en pandémie, là, je conseille pas à personne d'aller s'asseoir sur cette chaise-là parce qu'il va se retrouver dans la même situation. Faire des jokes entre deux entrevues de mort, puis de vaccins, puis de pandémie, puis de maladie mentale, là, c'est pas évident. Ou alors que ce soit pas un humoriste, là, tu sais, c'est drôle parce que dimanche dernier, Pierre-Yves Lard, c'est comme proposé sans savoir ce qui allait arriver. Et lui, par exemple, ça serait un bon exemple. Lui, il est pas tenu à faire des blagues, là. Il peut juste commenter, poser des questions, compléter ce que Guy dit. Là, peut-être que ça pourrait se faire.
Même encore.
Mais, Même encore.
Il y aurait des gens qui feraient des comparaisons.
Mais dans le contexte du direct, je pense pas qu'on puisse arriver à quelque chose qui va faire sans faire l'unanimité. Écoute, un fou du roi, là, c'est pas là pour faire l'unanimité non plus. Entendons-nous.
Non.
Là, c'est là pour grincer. C'est là pour nous faire grincer des dents. C'est exactement la job que c'est là. C'est pas là juste pour nous faire rire. C'est là pour mettre un caillou dans la roue, là.
Je m'excuse d'interrompre, mais hier, on a posé la question, j'ai posé la question à André. Est-ce que ça se fait encore, ce job-là, en direct? Et il a dit, moi, je pense que oui, mais Danny pensait que non.
Mm-hmm.
Fait que la question a été posée hier, puis André, je pense qu'il est placé dans la production pour savoir ce qui se dit, ce qui se pense, il continue de penser que ça se fait en direct.
Un autre symbole de notre époque, Richard, tu vas certainement trouver l'ironie dans tout ça, c'est que depuis ce texte, honnête, courageux de la part de Danny et sa décision quand même importante après 17 ans. Mais là, maintenant, les réseaux sociaux ont fait un virage à 180 degrés. Il était inondé de bons commentaires.
Écoute.
Et de bons sentiments. Est-ce que ça dévoile pas quelque chose un peu de cette époque agitée?
C'est la grande ironie de toute cette histoire-là. C'est que maintenant qu'il est parti, ah ben là, on va donc s'ennuyer, puis il est donc extraordinaire, puis ça nous fait donc de la peine. Moi, je trouve ça très ironique parce que, mais il y a quand même, faut dire qu'il y a quand même, oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a encore des gens, là, qui manifestent qui sont très contents puis qui méritaient juste ça puis qu'il récolte ce qu'il a semé pendant toutes ces années-là. Je m'excuse, il récolte ce qu'il a semé. Est-ce que Danny Turcotte était si méchant avec les invités quand on le compare au Fou du roi original de la version française?
Non,
de
Laurent Baffin, non.
Absolument pas. Là. Non. Il était d'une grande gentillesse à côté. Là. Bon.
Alors, mais, Richard, oui.
Il y a une question qui se posait. T'sais, hier, moi, je me suis dit comment ça se fait qu'il quitte, comment ça se fait que la production l'a laissé quitter comme ça. T'sais, je me posais cette question-là. J'ai posé la question à André Ducharme. Vous auriez pas pu faire les choses autrement, c'est-à-dire qu'il parte, par exemple, à la fin de la saison, tout ça. Mais quelque part, et André me disait, peut-être qu'il a voulu avoir aussi une sorte d'impact. Mm-hmm. C'est un impact qu'il n'aurait peut-être pas eu. Puis je pense que c'est vrai, il y a un côté de ça. Un impact qui n'aurait pas été aussi fort s'il avait quitté à la fin de la saison, après 17 ans, en disant merci, bonsoir. Ça, c'est sûr.
Oui, puis moi, Guillaume m'a dit, je ne me voyais pas essayer de le retenir parce que, comme André disait, eux autres, ça n'a pas été une surprise. Là. Ils ont vu ça venir depuis longtemps. Alors, c'est certain qu'il n'allait pas...
C'est pas
d'obtenir
quelqu'un qui est plus capable. Parce que
voilà,
c'est un peu
exactement.
Ça.
Alors, allons-y avec ce bilan de mi-parcours. On est le 21 février, Richard. Il reste encore beaucoup de télévision à regarder dans les prochaines semaines, dans ce qu'on appelle la saison hiver-printemps. Là.
Oui, mais c'est drôle à dire, mais ça achève. Il y a beaucoup de séries qui arrivent à leur fin. Là, il reste quelques épisodes, drôlement, mais bon, c'est ça. Mais moi, dans ce bulletin de mi-saison que je fais depuis 14-15 ans, oui, ça fait longtemps, je donne pratiquement jamais de note parfaite parce que je trouve que pour avoir une note parfaite, il faut vraiment que tu sois parfait, puis ça arrive presque jamais. Et là, pour la troisième fois, je donne une note parfaite. Et d'ailleurs, pour la deuxième fois, la même émission, c'est en direct de l'univers parce que j'ai beau chercher, là, cette émission-là est parfaite du début à la fin. Il n'y a rien à changer, aucun numéro. Je dis, moi, là, et en plus, cette émission-là impose un standard tellement que quand on a vu Star Academy dimanche passé, OK, c'était correct, mais on peut pas ne pas penser en direct de l'univers. Non, ça arrive en dessous. Alors, on dirait que toutes les émissions de variété qu'on voit après ça, ben c'est bon, mais bon, c'est ça. C'est pas en direct d'un univers.
Et en pandémie, cette émission, j'aurais pu lui mettre 10,5 sur 10.
Oui, t'as raison, parce que c'est tellement bon. À chaque semaine, il y a des numéros. Là. Hier encore, je voyais avec Marie-Denise Pelletier, quand Ingrid Saint-Pierre était là, ils sont allés chercher Marie-Philippe, qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans à la télévision. Pour Patrice Bélanger, il y a eu Claude Dubois dans un numéro. Là, je disais, on avait le poil dressé sur les bras. Donc, moi, ça, c'est cette émission-là, je suis obligé de dire que c'est la perfection. Il n'y a rien à changer.
Ah, il y a une émission que tu as classée en deuxième et qui, moi, était sur le haut de mon palmarès, Les Pays d'en haut, la dernière saison. Cette saison 6 dans laquelle Gilles Desjardins qui a trouvé les mots depuis, dans cette dernière saison-là, on a eu droit à une actualisation, entre guillemets, de tous les propos, tous les sujets dans cette émission-là. D'abord, de vrais sujets. On a même parlé, peux-tu croire, dans Les Pays d'en haut, de réchauffement climatique.
Ben oui, il y avait des échos à notre époque. Et c'était extrêmement intéressant et pas du tout aride, hein, Thérèse? On a parlé des montagnes de ski avec le personnage de Julie Le Breton qui voulait s'ouvrir un hôtel puis une montagne de ski, alors qu'à l'époque, tu voyais pas ça.
Oui, ben non.
Le personnage du propriétaire du magasin général qui se brossait les dents pour la première fois de sa vie, il avait jamais vu ça, une brosse à dents. Et là, il a pu reconquérir Delima de cette façon-là. Non, mais tu sais, c'est tous des petits détails comme ça qui sont géniaux.
Qui étaient véridiques. En fait, comme tu dis, ça fait écho à des préoccupations contemporaines. Puis, t'as mis Entre deux draps en troisième. Puis, écoute, je suis assez d'accord avec toi. C'est une série qui est assez savoureuse.
C'est savoureux, c'est le mot. Et encore une fois, tu sais, des séries sur le couple, là, on en a vu une puis une autre, là. Et puis des petits sketchs de couple aussi. Mais eux, ils réussissent à nous surprendre, mais en même temps, à nous mettre en pleine face nos petites chicanes complètement ridicules qu'on a en couple dans notre vie de tous les jours.
Ouais,
tu regardes ça, tu pars à rire, tu dis, mon Dieu, je fais ça moi dans la vie, mais c'est donc ben nounou. Et c'est... tellement bien joué par les acteurs aussi. Moi, je trouve, là, c'est vraiment mon coup de cœur des nouveautés en comédie cet hiver. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça sur nouveau.ca. Puis d'ailleurs, ça monte dans les codes d'écoute à chaque semaine.
Oui, parce que les gens le découvrent à chaque semaine. Les gens sont pas allés d'emblée, je pense. Ils sont allés voir une curiosité, puis là, tout à coup, ils sont restés. Et là, de plus en plus de gens y adhèrent. Tu as parlé de première fois, évidemment. Véronique Loutier, ben c'est une émission sans public, mais c'est une émission qui reste quand même magique.
Oui, oui. Puis on est allé, par exemple, chercher l'ami d'enfance de Corneille. Moi, je suis incapable de garder mes larmes dans cette émission-là. C'est tellement émouvant. Puis il y a une autre émission à laquelle on en avait parlé un petit peu l'autre fois, mais c'est Police en service à Télé-Québec. C'est fait par la même équipe que De Garde 24/7, mais pour la police, c'est fait à Québec, au SPVQ. Et c'est tellement bon, là, Thérèse. En plus, cette émission-là, ce que j'aime, c'est qu'on laisse parler les images. Pas besoin de musique dramatique comme on utilise beaucoup trop souvent dans ce genre d'émission-là. Non, on laisse parler les images. On va dans le travail quotidien de ces enquêteurs-là.
On va sur le terrain, en fait. On est là avec eux autres, là, sur le terrain.
Complètement. On est là sur le terrain, puis c'est tellement bien fait. Par contre, Big Brother Célébrité... Ça méritera pas un 10 sur 10, Paul.
Est-ce que tu as abandonné? J'imagine que tu fais comme moi, tu le regardes parce qu'on travaille là-dedans et qu'on n'a pas le choix.
C'est juste parce que j'ai pas le choix, là, parce que moi, l'affaire qui m'énerve le plus dans cette émission-là, c'est que ça chuchote, sont dans un château, Thérèse.
Ouais. Et tout ce qui est intéressant, tu le verras pas.
Tu le verras pas. Effectivement, c'est toutes des... Puis en plus, le Boys Club, là, on est tutané, là.
Ouais,
on est tutané de
ouais,
ça.
Ouais.
Non, vraiment, moi, c'est ma grande déception de la
saison.
Marie-Lé
qui essaie de tirer son... Bien, évidemment, qui essaie d'amener un peu de je sais pas moi, d'empathie là-dedans. Puis il n'y a rien de ça. Et je te dirais juste une chose sur Big Brother Célébrité. Je pense que les candidats qui sont là vont pas nécessairement s'en tirer indemnes. Je suis pas certaine. Je parle au niveau de l'image, là, évidemment. Il y a des gens qui vont sortir de là égratignés.
Mais par contre, tu vois, Rita Bagas, moi, c'était la seule qui me faisait rire dans cette émission-là.
Ben
je
oui.
la trouvais drôle à chacune
ben
de
oui.
ses interventions. Mais qu'est-ce que tu veux, ils l'ont évincée, évidemment, parce qu'elle était intéressante.
Là,
alors, reste pris avec du monde.
Ça donne le ton. Évincée parce qu'elle était intéressante.
Là, on n'est pas d'accord sur une chose, Richard. Les mecs, 6 sur 10.
Ça, on n'est toujours pas d'accord. Hein, ça,
on
s'est jamais
d'accord.
Entendu là-dessus.
Hey, Richard, là... Non, on a refait la communication. On est capable de communiquer avec la planète Mars, mais on avait de la misère avec Félix-Antoine Tremblay. Donc, le temps nous bouscule un peu, mais je voulais te prendre un petit peu dans ce contexte. Il y a eu des retours d'énormes émissions. Je parle de District 31 et des Beaux Malaises. Ta première opinion du retour?
Moi, j'ai adoré les Beaux Malaises 2.0. J'ai vraiment été conquis par la nouvelle mouture. Mais il semble que les gens soient pas... Oui, ça a commencé très, très fort là, dans les sondages d'écoute, mais ça a quand même baissé. Un remake de Caméra Café, là, je pense qu'on peut parler d'un flop. Là, cette semaine, on est rendu à 290 000 téléspectateurs. Pour TVA, c'est extrêmement faible. Une émission comme Drôle de Véronique qui ramène la parodie à la télévision, malheureusement, ça ne marche pas. 423 000, c'est très, très faible aussi. Et là, le grand retour, moi, je m'attendais à un raz-de-marée, c'est Star Academy, mais il semble que là aussi, il faut reconquérir le public, le reconvaincre de venir à cette formule-là. Ça a quand même fait 900 000 de moins que la dernière édition en 2012, alors que tout le monde en parle n'a pas bougé. Hein. Ils sont restés exactement à la même place. La quotidienne a été battue deux fois cette semaine par La Facture puis Infoman. Alors, ça va être. On voit que c'est difficile là, pour ces émissions-là à TVA de reconquérir les gens.
Et Star Academy, c'est quand même un morceau qu'on attendait depuis un bout. Là. Alors,
c'est une grosse franchise.
Une grosse franchise.
Là,
moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les quotidiennes, tu sais. Mais t'as la tour qui arrive là-dedans aussi. Là, et qui,
oui, la tour, écoute,
quand
ça
n'a
pas bougé. Hein?
Ouais,
ça n'a pas
ouais,
bougé.
Ouais.
Moi, je pensais que ça allait être dur contre le District 31.
Je suis très contente pour
tout.
Patrick Huard. Très contente.
Moi aussi. Ouais. Moi aussi parce que c'est une bonne émission.
C'est une excellente émission. Enfin, on a le temps de respirer et d'écouter les invités. Je sais pas si tu as cette impression-là. Moi, je suis allé, et donc, je suis peut-être pas objectif, mais j'étais avec Léon Labrèche d'Or, notamment. Et puis, j'ai cette impression-là que tu es dans, vraiment dans un loft, dans l'intimité, et Patrick prend le temps de jaser.
Oui, puis il est bon, il est très bon intervieweur, ouais. Et c'est drôle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les sketchs, là, il y en a vraiment de moins en moins. Hein. Des fois, il n'y en a presque pas du tout, hein. Un ou bon. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression qu'il voulait vraiment donner plus la place aux invités, puis c'est une bonne décision. Moi, les sketchs ne me manquent pas. Là.
Non, les sketchs ne me manquent pas, puis moi, j'aime bien les apartés de Patrick qui est à côté sur sa porte.
Ah, ça, c'est bon.
Ça, c'est très bon. Oui. Alors, on devrait aller vers ça plus tôt, puis vraiment...
Richard Therrien, c'est toujours un plaisir.
Hey, Richard, merci beaucoup.
Bien sûr.
Merci. Allez lire ça dans le soleil, c'est quand même intéressant ton tour de piste.